Ça vous intéresse pas?
Non, non plus.
Est-ce qu'il y a un sport qui vous intéresse?
Ben oui, moi j'aime bien ce film d'animation, moi j'aime bien ça.
Bienvenue dans Grand Écart, l'émission qui a pour ambition de parler de sport à tout le monde. On va être dans l'analyse critique, le recul historique,
le recul absolu et le liftage.
Parler de très nombreux sujets de société, le sport va être notre fil rouge. L'idée, c'est d'intéresser les passionnés comme moi, mais aussi ceux qui détestent le sport.
Et le bout du filet.
Moi, c'est Mathieu.
Baseball.
Et c'est parti.
Basketball.
Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de pratiquer... c'est une espèce de défoulement?
Eh ben alors, ça, je suis en rage.
Pourquoi vous êtes sourdier?
Est-ce que vous auriez joué au...
le football!
Sports! Heaven wants us to win this game!
Écoutez, moi, je n'ai plus l'âge de jouer au football, mais ça m'intéresse quand même.
On n'aura pas l'esprit du Real de Madrid.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Grand Écart sur Jet FM. Dans un épisode précédent, on a parlé de la Grèce antique, d'Athènes, et des conséquences en fait que ce modèle a eu, même à l'époque contemporaine, sur la société d'aujourd'hui. On va faire le pendant d'Athènes aujourd'hui, Rome, parce que la Rome antique a tout autant infusé sur l'Occident pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui et a façonné le monde moderne. Donc la fondation de Rome, c'est moins 753 avant Jésus-Christ, la date officielle, donc c'est un mythe, hein, Romulus et Rémus, deux jumeaux abandonnés, recueillis par une louve qui les aurait nourris. Et pour faire des parallèles avec le monde et le sport moderne, vous avez le club de foot de la Roma qui a choisi cette image, la louve qui nourrit à son sein Romulus et Rémus comme logo depuis 2013. Rome n'a pas toujours été un empire, on a tendance à parler de l'empire romain, mais pendant longtemps, c'était une république, avant de devenir un empire, juste après le règne de Jules César. À l'époque de la République, qui a duré des siècles, il y a trois institutions majeures. Ils sont le Sénat, l'Assemblée des magistrats et l'Assemblée des citoyens, qu'on appelait le SPQR. Et, par exemple, la Roma, toujours elle, a décidé, une année où elle n'avait pas de sponsor pour son maillot, de mettre ces quatre lettres, cet acronyme SPQR, sur son maillot, Senatus Populus Quae Romanus. Rome est un empire très particulier, en tout cas pendant sa conquête, avant la mise en place officiellement de l'empire. Il y a certains empires qui sont extrêmement agressifs. Par exemple, l'empire de Genghis Khan, les Mongols, on avait tendance à dire que partout où ils passent, plus rien ne pousse, et derrière eux, c'était la dévastation. Rome, c'est pas du tout ce monde-là. C'est la Pax Romana. Quand vous êtes dans l'Empire, vous êtes en paix et on va construire des petites Roms un peu partout. Donc on peut prendre un exemple, un peu pour rigoler, d'un épisode d'Astérix. Donc les Romains essayent encore et encore de faire flancher ce village d'irréductible. Et puis dans un des albums, ils vont construire tout autour du village un théâtre, un amphithéâtre, une assemblée, des bâtiments, un port, etc. pour essayer de convertir volontairement les Gaulois à la culture romaine. Ce qui va évidemment... échoué. Donc l'Empire romain est tellement grand, en tout cas le monde romain est tellement grand, qu'à un moment donné, Rome ne suffit plus. Et il va falloir une deuxième capitale, une capitale en Orient. Donc Constantinople, du nom de l'empereur Constantin, va devenir la capitale de l'Empire romain d'Orient. Aujourd'hui, cette ville a changé de nom. Après être passée par Byzance, elle est devenue Istanbul. C'est une ville absolument gigantesque aujourd'hui. Et pour ceux qui connaissent Istanbul, donc dans la vieille ville, vous avez aujourd'hui la Mosquée Bleue, Sainte-Sophie, qui se font face. Entre les deux, le harem des sultans, le grand palais Topkapı, avec ses jardins célèbres. À l'époque, quand Constantinople est capitale de l'Empire romain d'Orient, à cet endroit précis où se trouve aujourd'hui la Mosquée Bleue, il y a un hippodrome pour faire des courses de chars qui fait 100 000 places. Il n'y a pas un seul stade aujourd'hui en Europe de cette taille-là. Donc la société romaine, du fait de sa richesse, du fait de sa croissance perpétuelle, du fait que ses frontières sont repoussées toujours de plus en plus loin, et que toutes les richesses sont centralisées à Rome, ça va donner un phénomène historique intéressant. Les gens qui étaient les Latins au départ, hein, le Latium, c'est un tout petit peuple au début qui a fondé ça, et qui ont donné notamment comme héritage leur langue, l'alphabet latin, quasiment au monde entier, en tout cas au monde occidental. Donc ces gens qui étaient des paysans guerriers, paysans quand ils étaient en temps de paix, guerriers quand ils étaient en temps de guerre, et progressivement, ils ont été tellement bons guerriers, ils ont gagné tellement de territoires, qu'ils sont devenus tellement riches, qu'ils se sont transformés en urbains. Il y avait de plus en plus de gens qui vivaient en ville, il y avait une élite immensément riche grâce aux conquêtes, des citoyens qui ont fini par ne plus travailler avec l'esclavage de masse. Donc il y a un truc qu'on peut aussi évoquer à ce stade-là, c'est que les sociétés qui permettent le développement de métiers comme philosophe, médecin, mathématicien, sont souvent des sociétés qui reposent sur l'esclavage. Quand vous n'avez pas d'esclaves, tout le monde quasiment est agriculteur, fait pousser à manger, parce qu'il faut nourrir toutes les bouches. Vous en avez quelques-uns qui sont les rois, les princes, etc., mais sinon tout le monde est paysan. Et quand vous avez une source de main-d'œuvre corvéable à merci d'esclaves, vous pouvez quitter les champs et vous consacrer à d'autres tâches, et devenir lutteur ou autre joyeuseté. Aujourd'hui, on a dans le monde contemporain les machines qui marchent au pétrole et aux métaux, qui nous servent d'esclaves et qui nous permettent à tous de faire autre chose et de ne plus être paysans. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent à travers l'histoire. Quand l'esclavage s'arrête pendant la période médiévale, tout le monde redevient paysan.
Quand on regarde ce que les machines ont fait du côté du travail, elles ont divisé par deux le temps de travail entre 1900 et aujourd'hui. Donc les 35 heures, c'est les machines. Les études longues, c'est les machines. Il n'y avait pas d'études longues avant les machines. Il n'y avait que les rentiers qui faisaient des études longues. Donc il faut bien, quand on regarde la réalité physique, c'est qu'avant les machines, les gens transpiraient beaucoup, que les deux tiers de la population étaient agriculteurs et que le soir, ils ne venaient pas dans ce genre de conférences. Donc je parle ni pour vous et pour moi en même temps. Donc il faut bien voir que si on a le temps aujourd'hui de se poser des questions philosophiques, pardon d'être un peu provoque, on le doit notamment aux machines. Donc dans un monde dans lequel on va avoir des flux physiques en contraction, on va avoir besoin de plus de travail manuel. Comment je ne préempte pas le débat sur la répartition entre rente et salaire, communisme et capitalisme, etc. Juste physiquement, moins de machines et il y aura besoin de plus de travail. Et même malgré ce plus de travail, on ne compensera pas la baisse de production physique.
Donc vous avez à Rome une ville de gens riches, urbains, oisifs, qui ne travaillent plus. Et pour cette population très particulière, on va développer des loisirs à grande échelle pour lutter contre l'ennui général. Le pouvoir central va s'emparer de la question des loisirs et l'Empire romain, qui a plusieurs surnoms, a notamment comme surnom l'Empire des loisirs. Donc il faut imaginer des choses qui semblent assez banales aujourd'hui, mais qui sont des révolutions conceptuelles à l'époque, des zones piétonnes, des trottoirs dans les rues, des bancs publics, un endroit où on peut s'asseoir pour regarder le monde se dérouler devant nous pendant qu'on fait rien. Donc il y a un effort d'urbanisme sans précédent qui va être d'empereur en empereur, chacun va vouloir laisser sa trace, qui va transformer Rome en ville complètement à part. Donc si on a tendance en France à se dire que Paris est la plus belle ville du monde, du point de vue de pas mal de gens, Rome rivalise largement. On va construire des temples, des forums, des jardins, des thermes, des théâtres, des amphithéâtres, des promenades, des parcs, des bibliothèques. Rome, c'est une ville absolument spectaculaire, bien avant toutes les autres. Donc à Rome, la société est séparée en 5 niveaux de séparation sociale. Tout en haut de la hiérarchie, vous avez les sénateurs qui ont le pouvoir politique. En dessous, vous avez les chevaliers, les cavaliers, qui obtiennent ce statut en fonction de leur patrimoine. À partir de 400 000 sesterces de patrimoine, vous obtenez ce statut. Ensuite, vous avez les citoyens hommes. Ensuite, vous avez les femmes. Et tout en bas, vous avez l'esclave. Donc si on pousse la comparaison entre Athènes, qu'on a vu dans l'épisode précédent, et Rome, on a deux approches complètement différentes de l'effort physique. On a vu qu'en Grèce, on avait l'agone, le principe compétitif, qui était puissant. À Rome, il n'y a pas d'esprit de compétition. L'intérêt pour la gymnastique grecque et l'athlétisme est nul. L'exercice physique, c'est seulement, uniquement un moyen de rester en bonne santé. On n'a pas de compétition à Rome. Il n'y a pas « tu finiras premier, tu cours plus vite », des trucs comme ça. Ça n'existe pas. Donc, j'ai parlé dans l'épisode sur Athènes d'Hippocrate, le fondateur de la médecine moderne. Les Romains ont leur Hippocrate. Il s'appelle Galénus et il a fondé une gymnastique en opposition totale à celle qui, pour lui, a dégénéré vers le professionnalisme en Grèce. L'idée, c'est qu'on s'entraîne pour les gestes de la vie quotidienne, pour rester en forme, et c'est tout. La compétition est bannie. Mais dans ce monde-là, qui dure des siècles et des siècles, il y a parfois des petites bascules. Et vous allez avoir dans l'histoire des empereurs qui vont être hellénophiles, qui vont aimer la culture grecque, dont un des plus grands empereurs qu'ait eu Rome, Auguste, qui va tenter d'imposer la culture grecque aux jeunes nobles romains comme les éphèbes grecs. Donc il va créer des espèces de petites équipes de jeunesse qu'il va appeler les Juventus, qui vont se défier d'une ville à l'autre. Donc la formule ne va pas prendre spécialement, mais ce mot, Juventus, avec un I, va donner naissance des siècles plus tard à un des plus grands clubs de foot italiens, la Juventus. Donc ce qui est un peu original ici, c'est que Juventus, ça veut dire la jeunesse, et que le surnom de la Juve, le club qui s'appelle comme ça aujourd'hui, c'est la vieille dame. Ça n'a pas de sens. Donc vous avez tout un pan de la philosophie grecque qui critique déjà à l'époque la dérive du sport. Et parmi les philosophes romains, donc les stoïciens, on fait passer l'instruction en premier. La gymnastique, ça n'est qu'un amusement qu'on va pratiquer au terme. Donc à ce moment-là, on va avoir une confrontation des concepts et des rapports au corps, à la compétition entre la culture grecque et la culture romaine. Dans la culture grecque originelle, on fait des maths et de la philo le matin avec Platon et Aristote, et on fait la course à pied, de la lutte, du javelot l'après-midi pour avoir un esprit sain dans un corps sain. C'est ce que Juvénal, écrivain philosophe romain, va écrire pour décrire les Grecs. Un esprit sain dans un corps sain. Chez les Romains, c'est pas du tout la même chose. Donc vous avez un des plus grands philosophes romain, Sénèque, qui va écrire, lui, « Demander l'harmonie de l'âme, la santé de l'esprit, et ensuite celle du corps. » D'abord l'esprit, ensuite le corps. C'est pas les deux sur un plan d'égalité, c'est l'esprit d'abord, le corps ensuite. Donc on a deux façons de voir le monde, de voir le corps. Et puis il y en a une troisième qui va se greffer là-dessus, au moment où on va basculer. Donc Jules César est le dernier dirigeant de la République de Rome. Il va se faire nommer dictateur à vie, c'est ça son statut officiel. Et puis à partir de son successeur, on passe dans l'Empire romain. Donc on est au tout début, juste après l'an 50-60, par là, dans l'ère moderne. C'est donc la naissance de Jésus, la naissance du christianisme, qui va mettre quelques siècles à se développer et à prendre le pouvoir total. Mais vers le 3e siècle, on va avoir un empereur romain qui va se convertir au christianisme, Théodose II. Et dans le christianisme, il y a une immense bascule par rapport aux Grecs et aux Romains, qui avaient de très nombreux dieux. Il y avait le dieu de la guerre, le dieu de la mort, le dieu de l'amour, le dieu de je ne sais quoi. Il y avait le dieu du raisin, il y avait des dieux pour tout et n'importe quoi. Il y avait les dieux qui vivaient ensemble en Grèce sur le mont Olympe, etc. Et puis Mars, Jupiter pour les Romains, bref, ils en avaient plein. Et arrive avec le monothéisme l'idée qu'il n'y a qu'un seul dieu, le bon dieu, et que donc tous les autres sont de faux dieux, et tout ce qui va être consacré aux anciens dieux, ceux d'avant qui sont faux, va être considéré comme des rites païens et progressivement interdits. Et là-dedans, par exemple, vous aurez les Jeux d'Olympie, qui sont dédiés à Zeus. Donc vous avez trois visions du monde qui se disputent la domination culturelle en Occident à peu près autour de l'an 0 à 300, qui sont la culture grecque, un esprit sain dans un corps sain, la culture romaine, un esprit sain, et la culture chrétienne, soumission au seul et unique bon Dieu.
Cheer up, Brian. You know what they say?
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Donc après le décret de Théodose qui interdit les Jeux Olympiques en l'an 393, on peut donc faire le bilan des 1000 ans qu'ont duré les Jeux Olympiques. Donc déjà, c'est très étrange, mais celui qui a gagné le plus de titres dans les Jeux grecs, pas seulement d'Olympie, mais de toutes les villes grecques, parce qu'il y avait des Jeux dans toutes les villes de Grèce et du monde grec jusque en Égypte, par exemple. Celui qui a le plus gagné de titres, c'est un empereur romain. C'est Néron, en l'an 67 après Jésus-Christ, qui a gagné 1808 victoires, record absolu. Donc il faut faire un petit développement sur Néron, un empereur complètement fou. En gros, à 17 ans, il est nommé empereur. Il aime la musique, il aime le chant, il aime se travestir, il aime danser. Donc il est très rapidement détesté par toute une partie de l'élite et de la population. Donc à la fin de sa vie, Néron va être condamné à mort pour avoir tué notamment sa mère et deux de ses épouses. Au moment où sa vie bascule, où l'armée, le Sénat, le peuple, les colonies romaines sont toutes en train de se retourner contre lui, que décide de faire l'empereur Néron ? Il décide de partir en Grèce faire une tournée de tous les Jeux. Donc il va dans toutes les villes de Grèce, les petites, les grandes, à Olympie, comme dans les autres villes, participer aux Jeux grecs. Et à l'époque, on a, au-delà des performances sportives, des performances artistiques, déclamations, poésie, des trucs comme ça. Et il va gagner absolument toutes les épreuves dans lesquelles il est inscrit. Alors, l'histoire raconte qu'il avait un penchant pour la boisson très très fort, que des fois il est tombé de son char et que les autres concurrents se sont arrêtés pour le laisser remonter et gagner quand même. Qu'il avait avec lui à sa suite des milliers de personnes qui sont venues avec lui pour l'acclamer pendant tout son séjour. Il avait les Amazones, son armée de femmes, pour le défendre. Et puis il a corrompu tout le monde. On parle d'un million de sesterces de corruption pour toute la période qui dure à peu près un an. Et du coup, il sort de là avec le record absolu de victoire dans les Jeux antiques grecs. Et à son retour à Rome, il va être renversé par le Sénat et condamné au couleus, le terrible châtiment. Donc en gros, on vous enferme dans un sac avec, si j'ai pas de bêtises, un serpent et un chien et une poule, je crois que c'est ça, vivant, et on vous jette dans le Tibre, le fleuve qui passe à Rome. Donc il s'est suicidé à 30 ans, Néron, pour éviter de subir le couleus, et son nom a été banni pour toujours, il y a eu le damnatio memoria, son nom a été retiré de l'histoire de Rome. Et à ce moment-là, les Grecs l'ont aussi effacé des tablettes des Jeux antiques. Et Rome a même demandé la réparation du million de dollars de corruption, de millions de sesterces de corruption. En termes d'athlète réel, Théagène de Thasos, avec 1400 victoires dans les sports de lutte, pancrace, pugilat, 20 ans de carrière, on peut considérer que c'est lui le plus grand champion de tous les temps dans l'Antiquité grecque. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'Empire romain était tellement grand que pendant très longtemps, plusieurs siècles, la Grèce était une province de Rome, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une influence colossale. En ce qui concerne les loisirs et les sports, dans l'Empire romain, il y a un lieu qui est le plus important de tous, c'est celui qu'on appelle, le mot aussi à traverser l'histoire, le cirque. Donc le cirque, parce qu'il est circulaire, c'est l'endroit où on fait les courses de chars. Donc c'est une pratique qui a commencé au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a fini au 16e siècle. Donc il y a eu plus de 2000 ans de courses de chars. Donc d'un point de vue purement factuel, c'est le plus grand sport, la plus grande activité culturelle et ludique de l'histoire de l'Occident. Il y a eu 2000 ans de courses de chars absolument gigantesques. Les Romains, pour assister à ces trucs-là, on construit le plus grand stade de tous les temps, le Circus Maximus, du nom de l'empereur Maxime. Donc c'est là où ont lieu les courses de chars, 250 000 places dans le Cirque Maxime, et vous aviez, pas loin, à portée de marche, un pâté de maison, l'amphithéâtre Flavien, du nom de l'empereur, Flavien, qui a un autre nom dans l'imaginaire collectif, parce qu'en face de lui, il y avait une statue géante. Donc pendant que Néron était empereur, il a fait construire une statue de lui de 30 mètres, le colosse de Néron. Et on lui a enlevé son visage quand Néron est mort, puisqu'on l'a banni pour toujours. Et pendant près de 1000 ans, cette statue est restée devant l'amphithéâtre. Elle est restée tellement longtemps qu'à un moment donné, le stade a pris le nom de la statue. Le stade est devenu le Colosseum, qu'on appelle nous le Colisée. Donc vous avez à Rome 250 000 places dans le Cirque Maxime. Il y a des textes de l'époque qui disent que des fois on était en surcapacité, il y a même des fois jusqu'à 385 000 spectateurs, sachant qu'il y a 1 million d'habitants au temps d'Auguste, autour de l'an 0. Donc il faut imaginer ce que c'est une ville antique d'un million d'habitants, où vous n'avez pas la réfrigération pour garder la bouffe longtemps, où vous avez pendant d'abord des siècles pas d'évacuation des déchets, notamment des déchets humains. Donc c'est à Rome qu'on va inventer les égouts, le cloaca maxima. Bref, c'est une ingénierie folle et un miracle quotidien de faire vivre un million de personnes au même endroit à une époque pareille. Ça devait être d'une puanteur absolue. Donc jusqu'à aujourd'hui, le Circus Maximus reste le plus grand stade de tous les temps. Il y a juste une seule infrastructure qui accueille des événements de ce genre-là qui est plus grande. C'est là où il y a les 500 miles d'Indianapolis aux États-Unis, donc c'est une course de voiture. Et en fait, c'est un stade qui fait le tour d'un circuit. Donc ça, c'est 400 000 places. Dans le même registre, on peut parler du circuit de la Sarthe au Mans, où il y a les 24 heures du Mans. Donc c'est pas que des places assises, mais on peut mettre 263 500 personnes au Mans, ce qui en fait le deuxième stade du monde et un des deux seuls stades plus grands que le Cirque Maxime de l'époque romaine. Après, on a quelques exemples dans l'histoire de stades gigantesques. Le Strahov à Prague, où il y avait 9 terrains de foot dans le même stade. Le Maracana, qui est monté à 200 000 places quasiment au Brésil. Il y en a quelques-uns comme ça. C'est essentiellement aujourd'hui les plus grands stades du monde, des trucs de course de voiture. Le plus grand stade officiel du monde aujourd'hui est à Pyongyang, en Corée du Nord. C'est le stade du 1er mai qui fait 150 000 places, mais qui n'accueille pas grand-chose, parce que les Nord-Coréens n'accueillent pas grand-chose. Et puis, vous avez des stades qui sont en Inde, par exemple, au Pakistan, ou sur les campus des universités américaines, pour des stades de football américain, donc dans le Michigan, en Pennsylvanie, à Mexico, il y a un stade de plus de 100 000 places. Voilà, dans d'autres facs américaines, Ohio, Baton Rouge, Tuscaloosa, un stade en Malaisie qui fait 100 200 places. On a en gros 20 stades sur Terre aujourd'hui qui font plus de 100 000 places et aucun n'est en Europe. Le plus grand stade en Europe, c'est le Camp Nou, le stade de foot de Barcelone qui fait 99 354 places. Il était à 120 000 à un moment, mais il a été réduit en capacité pour des questions de sécurité. Parce qu'il y a eu énormément de drames dans l'histoire récente du foot avec ce qu'on appelle le overcrowd, donc une capacité et puis trop de gens dedans et des gens qui meurent étouffés quand il y a un mouvement de panique, etc. Donc aujourd'hui, le plus grand stade en Europe fait moins de 100 000 et à l'époque de Rome, il fait 250 000. Le Circus Maximus, on n'a jamais fait plus grand depuis. Roman kings in their shark skin suits, bow ties and buttons, high top boots, driving the specs in. Donc les courses de chars, c'est vraiment le grand spectacle de l'époque. On a des équipes, les rouges, les bleus, les blancs, les verts. Il y a quatre équipes et en général, elles sont corrélées à un statut social. Les bleus, ça va être le Sénat, les rouges, ça va être le peuple, etc. Et puis de temps en temps, on va avoir des populistes qui disent « Moi, sénateur, je supporte les verts du peuple pour me faire bien voir. » Donc tout un tas de schémas qu'on retrouve aujourd'hui encore. Il y a un personnage majeur dans l'histoire des courses de chars à Rome, c'est Dioclès qui a fait 1467 victoires et qui du coup a gagné 36 millions de sesterces dans sa vie. Ce qui en fait, en parité de pouvoir d'achat, si on calcule l'argent que ça représenterait aujourd'hui, le sportif le mieux payé de tous les temps. Parce que la conversion donne 11 milliards d'euros. Donc c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement riche, bien plus que Michael Jordan, le sportif le plus riche de l'ère moderne. Donc il y a des films qui mettent en scène tout ça. Il n'y a pas d'image d'archives, évidemment, mais le Ben-Hur, le plus récent, qui doit être de 2020 par là, a une scène notamment de course de chars dans le Circus Maximus, avec une reconstitution qui est assez fidèle. D'un point de vue visuel, c'est très, très bien fait. Il y a un truc qui est très connu, en tout cas une caricature de Rome qui est très utilisée, on dit du pain et des jeux. L'Empire romain, c'était du pain et des jeux. Donc ce concept-là, ce qu'on appelle les spartiones, ça a existé. Donc c'est une pluie de cadeaux sur le public. et de temps en temps un gros lot, une maison, une bourse remplie d'or, des trucs comme ça. C'est un peu le principe du loto. Vous arrivez au stade, vous êtes pauvre, et puis il existe une possibilité que vous repartiez riche. Donc vous allez revenir à chaque fois, parce qu'à chaque fois, il y a une possibilité que vous reveniez riche. Donc ce truc-là n'a eu lieu que sous deux empereurs différents, ça a duré pendant une trentaine d'années, et c'est resté extrêmement célèbre, à tel point qu'on en a fait un truc global. Mais c'est un peu comme pour les orgies romaines, qui sont extrêmement célèbres, mais qui ont un côté un peu marginal à l'échelle des siècles qu'ont duré cette période. Donc d'un côté, vous avez les courses de chars, qui sont le grand spectacle principal. Et puis de l'autre, vous avez la gladiature, qui est l'autre spectacle le plus connu aujourd'hui. Donc on peut se poser la question avant d'y aller sur est-ce que c'est du sport, la gladiature, donc des gens en armure qui s'entretuent dans une arène pour le plaisir des spectateurs. Donc c'est des athlètes surentraînés qui ont passé leur vie à s'entraîner. C'est un spectacle qui est mis en scène et vous avez des dizaines de milliers de personnes qui regardent. Il y a tous les critères du sport, avec en plus la mise à mort qui a disparu du sport moderne. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rapport à la mort est totalement différent dans ces périodes-là. Donc ça a une barbarie indiscutable, hein, la gladiature, même les courses de chars un peu, mais qui est totalement acceptée par la société. Donc on a des maladies qui font des épidémies absolument folles, on a des enfants qui meurent en bas âge et des femmes qui meurent à l'accouchement partout, tout le temps. En masse, on a des guerres tout le temps, on a des esclaves qu'on ne considère absolument pas. En fait, la violence de ces sociétés-là est quasiment inimaginable pour quelqu'un d'aujourd'hui. Donc dans les arènes, on va sacrifier des animaux exotiques, des éléphants, des tigres, des trucs comme ça. On va faire des exécutions de masse dans l'arène. L'habitude de voir la mort, c'est quelque chose qui fait que ça devient normal et qu'à un moment donné, voir en direct une mort spectaculaire, pour eux, à l'époque, ça a un côté ludique. Et le public va en redemander. Donc par exemple, les premiers chrétiens vont être exécutés massivement. Et en gros, le concept de la prison à vie, ou pour longtemps à l'époque, n'est pas très utilisé. C'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un qui a commis un crime, on ne va pas l'enfermer et le nourrir et le loger pendant 10 ans. Ce n'est pas une idée qui traverse la société. C'est soit on le libère, des fois avec une main en moins, soit on s'en débarrasse. Et comme on aime bien les mises à mort, on va souvent s'en débarrasser de manière spectaculaire pour amuser le public. Donc les premiers chrétiens qui sont exécutés sont parfois exécutés au Colisée, à Rome, et on les met, donc femmes, enfants, vieillards, face à des lions et des tigres exotiques, et les gens regardent ça avec plaisir. Donc il y a pas mal de clichés sur la gladiature qui existent, qui sont faux, et qu'on va essayer de débunker un petit peu. Il y en a deux, notamment, donc celui où on lève le pouce vers le haut ou vers le bas pour la mise à mort, donc c'est au début, celui qui organisait les Jeux, qui avait ce droit-là, puis ça a été transféré à l'empereur au moment où on est passé à l'Empire, puis au peuple. Pouce vers la gorge pour la mort, pouce fermé sur la main pour la vie. Mais l'idée principale, c'est que former un gladiateur à devenir un athlète de haut niveau, ça coûte tellement cher, ça prend tellement de temps, qu'en fait on les épargne la plupart du temps. Et donc c'est assez contradictoire avec le monde moderne, mais le fait qu'il y ait de l'argent en jeu, que ça coûte cher de former un gladiateur sur 10 ans, bah ça va humaniser la gladiature parce qu'on ne peut pas les tuer en fait. Ça coûte trop cher. Donc on peut dire, l'argent va humaniser légèrement la gladiature. Donc les plus anciens combats de gladiateurs qui ont été recensés, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ. Et pendant toute la première période, donc on est sous la République de Rome, c'est organisé sur fonds propres par des personnes privées. Donc c'est quelqu'un qui est riche, qui a le statut de cavaliere, qui va organiser des jeux les plus spectaculaires possibles pour que, quand il y aura une élection ensuite et qu'il voudra atteindre le statut final de sénateur, les gens le connaissent. Donc c'est une façon d'instrumentaliser un peu tout ça. Donc c'était une pratique religieuse aussi au départ qui a dégénéré comme les jeux grecs. L'idée c'est donc de devenir populaire en payant ça soi-même. Donc c'est financé pendant en gros 150 ans par des particuliers et c'est de plus en plus grandiose. Et c'est au moment où Auguste, le premier empereur, va arriver qu'on va faire de la gladiature un spectacle officiel de l'Empire. Donc les combats sont récupérés par le pouvoir impérial et la pratique va se généraliser partout dans l'Empire romain, au Maghreb, plus au nord, il y en a un peu partout et ça va renforcer le culte impérial.
Citizens, I welcome you to these games in the name of your emperor, the divine Tiberius. We dedicate them to his glory and to the glory of Rome.
Les gladiateurs, c'est pas n'importe quelle personne, c'est des rebuts de la société, c'est des gens qui sont soit des esclaves, soit des gens qui ont été déchus de leurs droits civiques pour avoir commis des crimes, soit des prisonniers de guerre, et de manière totalement marginale, quelques hommes libres qui y vont attirés par les gains potentiels, mais vous avez votre vie en jeu. Il y a un empereur qui a participé à la gladiature, c'est Commode. Donc dans le film Gladiator, par exemple, c'est le méchant, l'empereur Commode. Et tous les textes disent que, évidemment, il est sorti vivant à chaque fois de l'arène et qu'en gros, ils n'étaient pas très intenses en face. Donc le film Gladiator, qui est sorti en l'an 2000 avec Russell Crowe, a beau avoir été totalement romancé par Hollywood, il a quelques vertus, notamment de remise en scène visuelle du contexte historique. Le plus connu de tous les gladiateurs porte un nom qui lui aussi a traversé le temps. Il s'appelle Spartacus et il a mené la révolte en 73 avant Jésus-Christ des gladiateurs. Donc il s'est échappé de sa prison avec ses camarades et ensuite ils sont allés vers le sud de l'Italie et ils ont libéré tous les gladiateurs pour enfin marcher sur Rome avec une armée de 30 000 hommes. Donc il faut imaginer 30 000 gladiateurs évadés qui essayent de faire tomber l'Empire et l'armée romaine a réussi à s'en sortir. Mais Spartacus a laissé son nom, notamment à un club de foot russe dont l'histoire est aussi tout à fait incroyable, que je raconterai peut-être dans un autre épisode un jour. Le Spartak Moscou. Donc la gladiature, c'est quelque chose qui va générer énormément d'argent, créer de nouveaux métiers, masseurs, médecins, entraîneurs, qui sont souvent d'anciens gladiateurs eux-mêmes reconvertis, qui ont fini leur carrière vivant. Donc il y a un système de hiérarchie extrêmement clair, il y a un système de division, comme dans le foot d'aujourd'hui, Ligue 1, Ligue 2, Ligue des Champions, des choses comme ça. En gros, combattre au Colisée de Rome, c'est la Ligue des Champions, si on veut faire simple. Donc il y a un barème très précis sur la valeur d'un combattant, ça peut coûter extrêmement cher, jusqu'à 100 000 sesterces, ce qui est une somme colossale à l'époque, et on va avoir des critères pour acheter ou pas, transférer ou pas un gladiateur d'une ville à l'autre, donc son palmarès, sa force, sa capacité à divertir le public, sa capacité à faire des gestes spectaculaires, à faire durer un combat, des choses comme ça. Donc on a un prix des transferts avec des critères objectifs, comme pour un footballeur d'aujourd'hui. Donc pendant un temps, c'est juste des gars avec une épée. Et puis ça devient redondant. Donc à un moment donné, on se dit comment faire pour varier les plaisirs. Et on va faire 17 spécialisations différentes de gladiateurs. Donc il y en a un qui a un filet et un trident comme le dieu Poséidon. Il y en a qui ont des boucliers, il y en a qui ont quasiment rien, il y en a qui ont une hache, il y en a qui ont un cheval. Et voilà, on a de la variation pour créer du suspense, faire des combats plus diversifiés, des combats plus incertains. Sous le règne de Néron, l'empereur dont j'ai parlé plus tôt, on a les très rares exemples de gladiatrices, de femmes dans l'arène. Mais du point de vue de Néron, c'est plutôt quelque chose dont on peut se moquer. C'est quelque chose d'un peu de risible. Il a aussi, par exemple, remplacé les chevaux pour les courses de chars par des chiens ou des chameaux. C'est plutôt de cet ordre-là. Quand il met des femmes dans l'arène, c'est quelque chose de moqueur. Le plus grand spectacle de l'époque s'appelle les Nomachies. C'est des reconstitutions absolument spectaculaires de batailles navales. Donc ils avaient une maîtrise de l'eau, les Romains, qui étaient complètement dingues, hein, avec les aqueducs, etc. Ils arrivaient, donc c'est le peuple de l'eau, on l'appelle comme ça aussi. Et vous pouviez donc remplir un cirque ou un amphithéâtre avec de l'eau et amener des vrais bateaux pour reproduire des batailles qui avaient eu lieu. Donc le bilan de tout ça est complètement fou. Sur les quasiment 5 siècles qu'a duré l'Empire romain, entre les exécutions, les jeux du cirque et les nomachies, on estime entre 1 et 2 millions de morts, le bilan des jeux du cirque, avec des fosses communes à la fin pour se débarrasser de tout ça. Et on a des fois jusqu'à 3, 4, 5 000 morts en une journée sur des événements de nomachies, donc de reconstitution de batailles navales dans les arènes sportives de Rome. L'Empire romain va finir par s'effondrer. La date qui lance la chute, c'est le sac de Rome par les Visigoths, mené par Alaric en l'an 410. et la chute officielle de l'Empire romain d'Occident, c'est l'an 476, qui met fin à une période historique et qui en lance une nouvelle qui sera le Moyen-Âge. Donc pour conclure sur Rome, c'est un endroit et un moment de l'histoire où les loisirs tiennent une place absolument centrale. On a à l'origine un peuple de paysans-soldats dont la formation militaire a disparu progressivement. Elle a été déléguée au peuple conquis qui, à la fin, leur sont revenus comme un boomerang. Les citoyens romains sont devenus spectateurs, progressivement, d'une violence mise en scène par le monde politique qui se passait non plus dans la vie réelle, mais dans l'arène. Et de nombreux philosophes, on va dire, de l'époque, ou même d'aujourd'hui, voient là les raisons centrales de la chute de l'Empire romain. C'est des gens qui se battaient et étaient invincibles, qui ont délégué la violence à des gens payés pour ça, et qui, en bout de chaîne, se sont retrouvés incapables de se défendre quand le truc leur est revenu dans les dents. Et donc à partir de cette période-là, le christianisme va s'imposer, mettre fin au polythéisme, et le monothéisme chrétien va changer le monde, et on va rentrer dans l'époque médiévale, qu'on développera dans un autre épisode. Voilà pour l'Empire romain, le sport dans l'Empire romain. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Grand Écart. Ciao.